Alors, le thème de la conférence de ce soir, je voudrais vous parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le plan de la retraite, on vous a parlé de Dieu, donc c'est Dieu d'abord. Si vous êtes ici, c'est pour vous rapprocher de Dieu. Et puis ensuite, on vous a parlé d'un grand mystère, le mystère du mal, le fait que l'homme, hélas, s'est séparé de Dieu par le péché originel et également continue hélas à se séparer de lui par le péché. Alors après avoir vu ainsi le bien, Dieu, le mal, le péché, aujourd'hui, maintenant, apparaît le troisième volet, le Sauveur. Après le péché, le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Disait hier qu'il faut jamais séparer la vue de notre misère de la vue de la miséricorde de Dieu. Et donc cette miséricorde va apparaître spécialement en notre Seigneur Jésus-Christ. Et le premier point, on pourrait, il y aura plusieurs parties dans l'instruction, l'un des premiers points qui peut être pour nous source de réflexion, c'est le fait d'essayer de prendre conscience que l'incarnation de notre Seigneur n'est pas un dû, mais un don. À savoir que Dieu aurait très bien pu ne pas se faire homme pour nous racheter. Le bon Dieu aurait très bien pu nous laisser dans notre péché. Et si le bon Dieu nous avait laissés dans le péché, eh bien jamais nous n'aurions pu jouir du bonheur du ciel. Donc l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis tout petit, on sait que notre Seigneur est venu sur la terre, on le fête à Noël, il a pris une nature comme la nôtre à la crèche, on sait qu'il est mort sur la croix, et ça nous paraît peut-être aujourd'hui quasi naturel. Eh bien, il faut savoir que dans le plan divin, le bon Dieu, en soi, n'était pas tenu à venir s'incarner. Et donc, si on veut avoir un sentiment de juste reconnaissance, pour le grand mystère de l'incarnation de notre Seigneur, il faut d'abord prendre conscience de ce don merveilleux de l'incarnation. Se dire que l'incarnation est un don merveilleux et non pas un dû. Beaucoup d'auteurs ont médité sur cette vérité, et là je voudrais vous lire quelques réflexions de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a fait un traité de l'amour de la sagesse éternelle. Et au chapitre 4, il essaie de faire prendre conscience au lecteur de cette gratuité de Dieu dans ce mystère de l'incarnation. Et pour cela, il essaie tout d'abord de montrer ce qui s'est produit après le péché. La sagesse éternelle, donc la sagesse éternelle, quand il parle de la sagesse éternelle, il s'agit du Verbe de Dieu, il s'agit de la deuxième personne de la Trinité. La sagesse éternelle est vivement touchée du malheur du pauvre Adam et de tous ses descendants. Elle voit avec un grand déplaisir son vaisseau d'honneur brisé, son portrait déchiré, son chef-d'œuvre détruit, son vicaire sur la terre renversé. Donc Dieu voit dans quel état s'est retrouvé l'homme après son péché, après le péché originel. Et il voit ensuite dans quel état se sont retrouvés tous les hommes, les descendants d'Adam et Ève, dans l'Ancien Testament. En même temps, elle prête tendrement l'oreille à sa voix gémissante et à ses cris. Donc Dieu voit les plaintes, les gémissements, les prières ardentes de tous les justes de l'Ancien Testament qui réclament un sauveur. Elle voit avec complaisance les sueurs de son front, les larmes de ses yeux, les peines de ses bras, la douleur de son cœur et l'affliction de son âme. Donc Dieu voit l'homme dans l'état dans lequel il se trouve après le péché originel. Et là, pour nous faire prendre conscience de la gratuité du grand mystère de l'incarnation, Saint Louis-Marie Marie Grignon de Montfort imagine un dialogue entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Alors, je ne dis pas que ça se soit passé exactement comme ça au ciel, hein. On n'était pas présents. Mais c'est une image, si vous voulez, qui est utilisée pour nous faire prendre conscience de cette gratuité du plan de Dieu. Donc il va y avoir une discussion entre Dieu le Père, qui va représenter la justice de Dieu, et puis Dieu le Fils, qui va représenter la miséricorde. Et donc il va y avoir un dialogue entre les deux. Il me semble voir cette aimable souveraine, et la sagesse éternelle, donc la deuxième personne de la Trinité, appeler et assembler une seconde fois, pour ainsi dire, la Sainte Trinité, pour réparer l'homme comme elle avait fait pour le former. Il me semble que dans ce grand conseil, il se fait une espèce de combat entre la sagesse éternelle et la justice de Dieu. Donc tout d'abord, il va y avoir les arguments de la sagesse éternelle. Donc argument de la deuxième personne de la Sainte Trinité pour essayer de faire quelque chose pour réparer l'homme qui ainsi est tombé si bas après son péché. Il me semble que j'entends cette sagesse qui, dans la cause de l'homme, dit qu'à la vérité, l'homme mérite par son péché, avec sa postérité, d'être à jamais damné avec les anges rebelles. Donc il dit, en stricte justice, je suis d'accord. En stricte justice, l'homme mérite d'être damné comme les anges. Il n'y a pas eu de pitié pour les anges. Les anges, à partir du moment où ils ont commis un seul péché mortel, ils ont été précipités en enfer. Par conséquent, que tous les hommes tombent aussi en enfer, en soi, en stricte justice, ce serait normal. Mais, donc après la justice, la miséricorde, mais qu'il faut avoir pitié de lui. Alors, quelques arguments. Parce qu'il a plus péché par faiblesse et par ignorance que par malice. Donc, premier argument en faveur de l'homme, c'est que l'homme, dans son péché, certes il a péché gravement, mais c'était davantage par faiblesse et par ignorance que par malice. Par faiblesse, d'accord, ignorance, c'est peut-être difficile, puisque le bon Dieu avait bien parlé clairement, avait bien dit à l'homme et à la femme de ne pas manger aux fruits défendus, de ne pas toucher aux fruits défendus. Elle représente d'un côté que c'est un grand dommage qu'un chef-d'œuvre si accompli demeure pour jamais l'esclave de son ennemi. Donc si l'homme n'était pas sauvé, eh bien l'homme serait esclave du démon. Et que l'homme soit pour jamais l'esclave du démon qui est l'ennemi de Dieu, il semblerait que ce soit contre l'honneur de Dieu. Donc, elle représente d'un côté que c'est un grand dommage qu'un chef-d'œuvre si accompli demeure pour jamais l'esclave de son ennemi, et que des millions de millions d'hommes soient à jamais perdus par le péché d'un seul. Donc, si jamais Dieu ne s'était pas incarné, eh bien, tous les millions d'hommes seraient morts pour le péché d'un seul homme, à savoir Adam. Maintenant, il faut savoir, ici, c'est simplement une parenthèse, c'est que Adam a commis son péché en tant que chef de l'humanité, et non pas en tant que simple individu. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que toute l'humanité était en quelque sorte incluse en Adam au moment de son péché. Et c'est parce que toute l'humanité était incluse en Adam au moment de son péché, en quelque sorte, que nous sommes tous victimes aujourd'hui de cette tâche du péché originel. Donc après son péché originel, Adam a commis des péchés personnels, ces péchés personnels ont été transmissibles de génération en génération. Mais le premier péché qu'il a commis, il l'a commis en tant que chef de l'humanité. Donc il représentait tous les hommes au moment de son péché. C'est la raison pour laquelle tous les hommes sont affectés par la blessure du péché originel. La seule exception, c'est la Sainte Vierge, qui a été créée immaculée par un miracle du bon Dieu. Elle montre de l'autre les places du ciel vacantes par la chute des anges apostats. Donc, autre argument en faveur de la miséricorde de Dieu en faveur de l'homme, c'est que le tiers des anges, dit-on, s'est séparé de Dieu et était précipité en enfer. Donc tous ces anges-là ont laissé des places libres au ciel. Donc il y a des places libres, donc il faut quand même bien qu'on les occupe. Donc pourquoi pas l'homme ? Argument de la miséricorde de Dieu. Parce que selon une pensée de beaucoup de théologiens, ils pensent que fait que les hommes qui montent au paradis, donc prennent au paradis les places qui ont été laissées libres par les anges. Donc elle montre de l'autre les places du ciel vacantes par la chute des anges apostats qu'il est à propos de remplir. Et la grande gloire que Dieu recevra dans le temps et l'éternité si l'homme est sauvé. Donc dernier argument, bien c'est la grande gloire de Dieu, bien sûr. Si l'homme est sauvé, eh bien à ce moment-là, le bon Dieu en tirera une plus grande gloire, parce que l'homme pourra glorifier Dieu. Au moins gloire extérieure. La gloire intérieure de Dieu, elle est pleine depuis toujours, mais extérieurement, cette gloire sera manifestée par l'homme qui chantera sa louange. Donc voilà tous les arguments qu'utilise la sagesse de Dieu pour que Dieu le Père, eh bien, intervienne et ne laisse pas l'homme dans son péché. Et maintenant, il va y avoir quand même les arguments qui vont être avancés par Dieu le Père. Dieu le Père qui ne se laisse pas ainsi toucher par ces arguments, au moins au départ. Il me semble que j'entends la justice qui répond que l'arrêt de mort et de damnation éternelle est porté contre l'homme et ses descendants et qu'il doit être exécuté sans remise et sans miséricorde, ainsi que contre Lucifer et ses adhérents. Donc il n'y a pas eu de miséricorde pour Lucifer, je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour l'homme. Premier argument utilisé par Dieu le Père. Ensuite, que l'homme est un ingrat pour les bienfaits qu'il a reçus. C'est sûr que l'ingratitude, vu que l'homme avait reçu tous ses bienfaits, à savoir la grâce sanctifiante, ce trésor des dons préternaturels et des vertus infuses qui lui avaient été communiquées. Donc le fait de n'avoir tenu aucun cas de toutes ces grâces et de s'être fait ainsi l'esclave de Satan, c'est une manifestation d'ingratitude. Et puis enfin, qu'il a suivi le démon en sa désobéissance et en son orgueil, et qu'il le doit suivre dans ses châtiments, parce qu'il faut nécessairement que le péché soit puni. Donc, puisqu'il a suivi le démon dans son orgueil, il doit le suivre dans la condamnation qu'il devra subir. Alors à partir de ce moment-là, si vous voulez, si on essaie de se placer donc dans ce dialogue, si vous voulez, à ce moment-là, ben, on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire. On a d'un côté les arguments de Dieu le Fils qui semblent tenir, et puis ensuite il y a quand même ce Dieu le Père qui paraissent des arguments forts. Alors comment le bon Dieu va finalement réagir? Et c'est ce que dit ici Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, encore une fois, pour nous faire prendre conscience du degré d'amour de Dieu pour nous. La sagesse éternelle, voyant qu'il n'y avait rien dans l'univers qui fût capable d'expier le péché de l'homme, de payer la justice et d'apaiser la colère de Dieu, et voulant cependant sauver le pauvre homme qu'elle aimait d'inclination, trouve un moyen admirable. Chose étonnante, amour incompréhensible qui va jusqu'à l'excès. Cette aimable et souveraine princesse s'offre elle-même en sacrifice à son père pour payer sa justice, pour calmer sa colère et pour nous retirer de l'esclavage du démon et des flammes de l'enfer et nous mériter une éternité de bonheur. Donc la sagesse éternelle, voyez bien que le péché étant une offense qui lèse la majesté du Dieu infini, ce péché-là, eh bien, ne peut pas être réparé par un homme. L'homme ne peut poser en lui-même que des actes finis, des actes limités, surtout après son péché. Avec la grâce, on peut poser des actes d'une valeur méritoire de la vie éternelle, donc des actes d'une portée infinie, mais une fois qu'on est tombé dans le péché, on ne peut plus poser que des actes d'une portée limitée. Donc l'homme ne pouvait pas réparer. Donc la seule solution, c'était que ce soit Dieu lui-même qui s'offre par amour de nous. Et donc, voilà ce que fait la sagesse éternelle. Et puis ensuite arrive la conclusion. Une fois que la sagesse éternelle s'offre ainsi à Dieu le Père, eh bien la conclusion, son offre est acceptée, le conseil en est pris arrêté, la sagesse éternelle ou le Fils de Dieu se ferait à homme dans le temps convenable et dans les circonstances marquées. Donc Dieu a finalement décidé de prendre une nature humaine comme la nôtre pour nous racheter. Donc ayons bien ce regard de foi sur ce mystère de l'incarnation. Ne pensons pas que c'est tout à fait normal et naturel que le bon Dieu eh bien, vienne prendre une nature humaine comme la nôtre pour nous sauver. Ensuite, et c'est surtout ce que je je voudrais maintenant vous faire saisir, durant le reste de cette conférence, c'est vous aider à porter un regard juste sur notre Seigneur qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Donc, on sent bien que certaines personnes auraient tendance à trop insister sur l'humanité de notre Seigneur au point de vouloir nier sa divinité. Donc, de faire de notre Seigneur un surhomme, un homme supérieur aux autres, mais qui ne serait pas Dieu lui-même. Et au cours des siècles, il y a eu des hérétiques qui sont tombés dans cette erreur. Et puis ensuite, l'erreur opposée consisterait à penser que c'est Dieu vraiment qui a pris une nature humaine comme la nôtre, mais en fait, il n'a peut-être pas pris cette nature humaine exactement comme la nôtre, il restait Dieu, donc en tant que Dieu, il était supérieur aux autres hommes, donc il n'était pas quand même vraiment homme. Donc il aurait été vraiment Dieu, mais pas vraiment homme. En fait, il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Notre Seigneur est réellement Dieu, ce n'est pas un Dieu diminué, ce n'est pas une partie de Dieu, une parcelle de Dieu, c'est Dieu totalement. Et ensuite, notre Seigneur est réellement homme, donc ce n'est pas non plus un surhomme, c'est un homme. Et donc il y a en lui cette union intime de la divinité et de l'humanité. Et alors ce qu'il y a de très beau, c'est de voir dans sa nature qu'il y aura des moments où notre Seigneur va réagir d'une façon vraiment humaine, justement, très touchante. Et là, à ce moment-là, quand notre Seigneur agit en homme et purement en homme, tout en restant Dieu, il nous touche beaucoup. Et il y a d'autres moments où, parce qu'il est Dieu, il réagit aussi en Dieu. Et quand il réagit en Dieu, ben, on est souvent un petit peu perdu. Donc il est très important de voir comment notre Seigneur agit tantôt. Il agit toujours en tant qu'homme et en tant que Dieu. Tantôt son humanité apparaît plus proche, ou tantôt sa divinité apparaît plus marquée, afin de savoir comment réagir dans ces différentes circonstances. Donc voir comment notre Seigneur a surtout de temps en temps manifesté davantage son humanité ou sa divinité, et voir comment ceux qui ont été témoins de ces faits les ont rapportés pour voir comment eux-mêmes ont réagi, afin de savoir mieux comment nous-mêmes réagir quand notre Seigneur se comporte vis-à-vis de nous, aujourd'hui, davantage dans son humanité ou davantage dans sa divinité. Donc tout d'abord, le premier point que je voudrais souligner, c'est le fait de ne jamais négliger cette humanité de notre Seigneur. Donc certaines personnes, bon ce matin vous avez eu une instruction, et c'est très bien, faite sur la divinité, sur Dieu. On a besoin de méditer sur Dieu, c'est très important, mais on a aussi besoin de méditer sur la nature humaine de notre Seigneur. Et donc, il est très important, pour arriver à Dieu, de passer par l'humanité de notre Seigneur. Dans le plan de Dieu, vous voyez, la religion catholique, c'est la religion de l'incarnation. C'est Dieu qui s'est fait chair. On ne dit même pas qu'il s'est fait homme, mais on dit qu'il s'est fait chair. Donc, ce qui est chair, c'est ce qu'il y a vraiment de plus vil d'un certain côté dans l'homme, et ce qu'il y a aussi de plus palpable. C'est quelque chose de visible, de sensible. Donc, notre Seigneur a voulu prendre une nature humaine comme la nôtre parce qu'il connaît notre nature humaine. Et il sait très bien qu'on a besoin de sentir, on a besoin de voir, on a besoin de toucher. Et donc même dans notre vie spirituelle, quand on lit l'Évangile par exemple, n'ayons pas peur de voir notre Seigneur tel qu'il a agi en tant qu'homme. Donc je vous cite ici quelques réflexions de Dom Marmion, dans son livre « Le Christ dans ses mystères ». Thomas Marmion a écrit de bons livres de vie spirituelle, des livres qui ont été très lus, spécialement dans l'entre-deux-guerres, qui ont fait beaucoup de bien à un nombre incalculable et de prêtres et de fidèles. N'hésitez pas à lire ces livres. Ils font beaucoup de bien à l'âme, ils sont assez simples et ils sont très profonds. Le Christ est Dieu et homme. L'âme fidèle ne se contente pas de proclamer la divinité de Jésus, mais elle veut également honorer sa sainte humanité. Notre piété ne serait point parfaite, intégrale, si confessant la divinité du Christ, nous perdions de vue son humanité. Il y a des âmes qui croient mieux faire dans leur vie spirituelle de ne pas s'occuper de l'humanité du Christ, de ne contempler que sa divinité. Ce fut là, pendant un certain temps, l'erreur de Sainte Thérèse d'Avila. La grande contemplative a reconnu plus tard cette erreur. En quels termes amers elle l'a déplorée. Avec quelle vivacité elle a mis ses filles, donc les religieuses, et par elles toutes les âmes, en garde contre cette opinion qu'elle déclare erronée, dont elle ne se souvient jamais sans qu'elle soit saisie de douleur, car elle s'engageait dans une route détestable. Et il lui semble s'être rendu coupable envers le Seigneur d'une très noire trahison. À vrai dire, c'était ignorance. D'après la Sainte, donc conseil de Sainte Thérèse d'Avila, une telle illusion a pour cause un petit manque d'humilité, si couvert et si caché qu'on ne l'aperçoit pas. Car nous devons nous estimer très riches de pouvoir demeurer auprès de l'humanité de Jésus dans ses mystères. C'est un léger manque d'humilité de ne pas se contenter d'un objet si excellent que l'humanité de Jésus-Christ. Ce petit manque d'humilité qui ne paraît rien, nuit cependant beaucoup au progrès dans la contemplation. Un autre inconvénient de l'erreur que relève la Sainte est de laisser l'âme sans appui. Nous ne sommes pas des anges, dit-elle, nous avons un corps. Au milieu des affaires, des persécutions, des épreuves, dans les temps de sécheresse, c'est un excellent ami que Jésus-Christ. Nous le voyons homme comme nous. Nous le contemplons dans l'infirmité, dans la souffrance. Étant homme, il nous est très avantageux, tant que nous sommes en cette vie, de considérer Dieu fait homme. N'est-ce pas en effet la loi même de notre nature d'aller à l'invisible par les choses visibles? Or, l'incarnation est la plus divine application de cette loi psychologique. Donc, voyez, ce qui est très important pour nous, c'est d'apprendre à voir cette humanité de notre Seigneur, afin de voir comment notre Seigneur s'est comporté lorsqu'il était sur la terre. Notre Seigneur a voulu se faire homme, c'est pour que nous ayons un exemple visible, palpable, que l'on puisse suivre. Alors maintenant, dans cette humanité de notre Seigneur, donc on va essayer de regarder un petit peu notre Seigneur, en glanant uniquement ça et là des passages de l'Évangile, pour y après reprendre vous-même les passages que vous souhaiteriez reprendre. Je voudrais insister sur cette miséricorde de notre Seigneur manifestée dans l'Évangile. Notre Seigneur a voulu se faire homme pour que nous ayons un exemple visible que l'on puisse suivre. Et notamment, notre Seigneur s'est manifesté à nous sous l'angle de la miséricorde. Vous voyez, tant que Dieu n'avait pas pris une nature humaine comme la nôtre, on aurait pu se demander, du haut du ciel, est-ce qu'il pense vraiment à nous? Maintenant, il a pris une nature humaine, donc on l'a vu, on a pu le voir. Et ensuite, notre Seigneur a pris une nature humaine, et là, il a parlé, il a agi. Donc, comment il a parlé, comment il a agi, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand on le regarde et qu'on le suit tout au long de sa vie et cachée et publique, et ensuite même les épisodes qui apparaissent après sa résurrection, on voit que notre Seigneur a voulu spécialement nous montrer combien il est infiniment miséricordieux. Et là encore, en le voyant ainsi, agir ainsi, il faut savoir qu'il n'a pas changé. Notre Seigneur est Dieu. Donc en tant que Dieu, il ne change pas. Nous, bien sur la terre, malheureusement, les hommes, nous pouvons changer. Un jour, on est de bonne humeur, un jour, on est mauvaise humeur, un jour, on est comme ceci ou comme cela, bon, comme ça, on change. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, et en tant que Dieu, il ne change pas. Donc, essayons de voir comment notre Seigneur a manifesté sa miséricorde pour comprendre combien il est miséricorde. Quelques paroles de notre Seigneur. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ça, je vous le rappelais hier. Notre Seigneur est venu sur la terre, c'est pour les pécheurs, c'est pour nous sauver du péché. Donc dès lors qu'on reconnaît son péché, eh bien le bon Dieu nous absout. Si on recourt au prêtre, bien sûr, qu'il a institué pour recevoir les pénitents et pour absoudre les pénitents. Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28. Et notre Seigneur n'est pas menteur. Nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez, je vous soulagerai, c'est qu'il veut nous soulager et qu'il en est capable. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Saint Jean, chapitre 12, verset 32. Cette parole, il l'a prononcée peu de temps avant de mourir. Quand je serai élevé de terre, ça signifie lorsque je serai crucifié, lorsque je serai entre le ciel et la terre, sur une croix, j'attirerai tout à moi. Nous a attirés à lui en mourant pour nous sur la croix. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Saint Jean chapitre 16, verset 33. Ayez confiance. Le Seigneur nous demande d'avoir confiance. Il faut avoir confiance en lui, il est Dieu. On n'a rien à craindre en étant près de lui. Et il ne dit pas je vaincrai le monde, j'ai vaincu le monde. On préfère faire partie des gagnants que des perdants. En étant auprès du bon Dieu, on est sûr d'être du bon côté. On est du côté des gagnants, c'est sûr. Donc miséricorde de notre Seigneur à travers ses paroles. Miséricorde de notre Seigneur encore à travers les paraboles. Quelques exemples. L'exemple de la brebis perdue. Le Seigneur lui-même a pris cet exemple de ce pasteur qui perd une brebis et puis qui ensuite la retrouve. Et ensuite il est tout joyeux lorsqu'il a pu la retrouver. Et à partir de cet exemple-là, il nous dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Saint Luc, chapitre 15, verset 7. Bon, cette parole, vous l'avez déjà comprise, moi je pense, à peu près, moi, avant d'être prêtre, mais depuis que je suis prêtre, je l'ai bien vécu. C'est une partie des grandes joies du prêtre, de voir une âme qui revient vers Dieu. Le bon Dieu permet que le prêtre participe à sa joie en voyant une âme revenir vers Dieu. C'est normal, le bon Dieu a versé son sang pour tout le monde, pour toutes les âmes. L'image de la drague égarée. Et là encore, il parle d'une personne qui a perdu donc, une pièce de valeur, et bien une fois qu'il a retrouvé, la personne est heureuse, bien sûr. Et notre Seigneur en profite pour dire après, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Saint Luc, chapitre 15, verset 10. C'est la belle parabole qu'on pourrait méditer pendant une heure, de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui est accueilli avec bienveillance par son père. Saint Luc, chapitre 15, verset 11 à 34. Alors disons-nous bien, c'est Dieu qui parle, voyez, c'est Dieu qui nous a donné ces paraboles pour nous montrer comment il est prêt à agir vis-à-vis de nous. Normalement, une femme, une mère qui est vraiment mère, et bien lorsque son fils même agit mal, lorsqu'il est prêt à revenir avec de bons sentiments, et bien la maman est toujours prête à l'accueillir, normalement. Certes, s'il n'est pas dans de bonnes dispositions, il est possible qu'elle ne l'accueille pas. S'il est dans de bonnes dispositions, elle sera toujours prête à l'accueillir. C'est ce que le bon Dieu fait avec nous. Il est beaucoup plus mère encore que toutes les mères de la terre, voyez. Voyons encore l'attitude de notre Seigneur face aux pécheurs. Donc, il l'a manifesté par ses paroles, mais non seulement par ses paroles, mais par ses actes. Donc dans les gestes même, il a voulu montrer comment il était miséricord. L'attitude de notre Seigneur vis-à-vis de la Samaritaine. Il a choisi volontairement une Samaritaine. Donc les Samaritains étaient, ils n'étaient ni juifs ni païens. Ils étaient mi-juifs ni païens. Et ils entre les deux. Notre Seigneur a dit qu'il vomissait les tiennes, donc notre Seigneur aime bien ceux qui sont ou tout blancs ou tout noirs. Ceux qui sont entre les deux, il a dit qu'il vomirait les tiennes. Et donc la Samaritaine avait justement cette religion bâtarde. Et notre Seigneur n'aime pas cela. Et bien volontairement, il a parlé à cette Samaritaine, il a changé le cœur de cette Samaritaine pour montrer qu'il était miséricorde. Donc il est prêt à toucher les âmes qui sont les plus éloignées de lui. Et non seulement elle était éloignée de Dieu par la religion, parce qu'elle avait une fausse religion, mais ensuite, elle était éloignée de lui également par sa morale, puisque l'histoire nous apprend, comme elle le dit elle-même, qu'elle avait quatre maris. Et donc elle dit, j'ai eu quatre maris. Et donc celui avec lequel je vis, après dit notre Seigneur, donc n'est pas ton mari. Donc quatre ou cinq, je ne sais pas. Mais donc il a pris cet exemple de cette femme qui était très éloignée de lui, pour montrer la capacité qu'il a à ramener à lui les âmes très éloigné. L'épisode de la femme adultère, où notre Seigneur dit, moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Saint Jean, chapitre 8, verset 11. Donc c'est très important que nous ayons, voyez, ce sens-là, le sens de la miséricorde de Dieu, à la fois pour nous-mêmes, pour bénéficier de cette miséricorde, et aussi pour ne pas désespérer du salut des pécheurs. Il y a des fidèles, ils ont essayé de tout faire pour essayer de ramener à la foi des personnes qui en sont éloignées, et malheureusement, ils ne sont pas arrivés. Et parce qu'ils ne sont pas arrivés, ils disent, malheureusement, celui-là, il est foutu. Il n'y a rien à faire. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Le bon Dieu est infiniment puissant. Je pourrais vous donner des tas d'exemples, de très beaux exemples, encore aujourd'hui, actuellement. actuel, en l'an 2000 ou 2002, de personnes qui reviennent à la foi, qui en étaient au départ très éloignées. Parce que Dieu est miséricorde, il fallait être convaincu. Et maintenant, pour que cette miséricorde puisse s'exercer sur les âmes, eh bien, le bon Dieu veut nos prières et veut nos sacrifices. Si nous savons prier, si nous savons nous sacrifier, eh bien, ces âmes pourront revenir. Alors, parfois, il faut attendre très longtemps. Un seul exemple que je vous donne, début de mon ministère, donc ça m'a marqué, donc le ministère marque davantage sans doute un prêtre, une personne, c'était un monsieur, un vieux monsieur, il avait 92 ans, 93 ans, il s'était disputé avec un prêtre pendant la guerre 14-18. Donc vous voyez, c'était pas la veille. Hein. Et à partir de ce moment-là, il avait bon, peut-être 10-12 ans à l'époque, hein, donc il n'avait pas remis après, ou 13-15 ans, je pense que c'était plutôt à l'âge de l'adolescent. Et après, il n'avait pas remis les pieds à l'église. Et il s'était marié quand même religieusement. Enfin, je ne sais pas encore comment il avait fait. Bon, peut-être qu'en ce moment-là, pour le mariage, donc, pour faire plaisir à sa femme, donc, ça se passait à l'église, mais c'était tout. Et puis, elle espérait que son mari finirait quand même, parce qu'elle était précieuse, sa femme était précieuse. Donc, elle espérait que son mari, toute sa vie, elle a prié, parce qu'elle était persuadée qu'elle n'arriverait pas à le convertir le lendemain du mariage. Mais enfin, bon, il a fallu attendre des années, des années, des années. Et lui disait, moi je me convertirai bien, mais sur mon lit de mort, pas avant. Alors moi je disais, bon, excusez-moi, sans être prophète, vous avez quand même 93 ans, à mon avis, vous êtes quand même plutôt dans la pente descendante, vous voyez. Donc il serait peut-être bien d'essayer de vous mettre maintenant en règle, quoi. Et puis bon, il n'y avait rien à faire. Et alors, bon, je suis allé le voir plusieurs fois pour chercher à le rapprocher de Dieu, puis rien à faire. Et puis finalement, après le temps a passé, moi je l'ai pris par mon ministère, il dit peut-être, donc je passe le voir, mais alors c'est vrai qu'il. Et on sentait que c'était vraiment la fin était vraiment proche. Mais alors au début, il m'expliquait l'histoire d'années-lumière, je ne comprenais pas trop ces années-lumière. Donc là, il avait du mal à parler, il me disait encore années-lumière, je dis bon, et encore pour un moment, essayer de. Alors à ce moment-là, j'étais très ferme avec lui. C'est-à-dire que je lui ai dit, vous m'aviez dit que vous vous convertiriez sur votre lit de mort. Et bien, sans être prophète encore aujourd'hui, il me semble que là, ça va quand même pas très 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 bien avec vous. Donc, c'est vous qui prenez votre décision. Moi, je ne peux pas répondre à votre place. Hein. Mais sachez que peut-être que demain, si je reviens vous voir, vous ne serez peut-être plus de ce monde. C'est quand même votre éternité qui est en jeu. Donc, à vous de réfléchir. Alors, à ce moment-là, il a réfléchi. Et puis, donc, il a finalement accepté de recevoir les sacrements. Et donc, il a pu ensuite faire une belle mort. Et là, c'était vraiment bon. Hein. C'était vraiment une expérience. Bon, après, j'ai su qu'il y avait aussi une religieuse dans la famille, je crois, donc, qui avait dû beaucoup prier. Et puis, sa femme, donc, toute sa vie, elle a d'être mariée pendant plus de 50 ans, et elle a beaucoup prié pour que son mari puisse se convertir. Il a fallu attendre qu'il ait 93 ans. Enfin, j'espère que pour vous, vous arrivez à des succès plus rapides, hein. Mais ça montre que parfois, il faut être très, très patient. Et donc, il ne faut jamais désespérer du salut d'une âme. Pour vous donner d'autres exemples, bon, celui-là m'est arrivé comme ça, en fait. Ensuite, notre Seigneur a encore manifesté sa miséricorde à travers les miracles qu'il a accomplis. Il y avait des miracles physiques qui symbolisaient des maladies morales, notamment la lèpre. La lèpre est une image du péché. Le péché produit sur l'âme ce que la lèpre produit sur le corps. En guérissant les 10 lépreux, Saint Luc chapitre 17, versets 11 à 19, notre Seigneur a voulu nous montrer la capacité qu'il a de nous guérir de la maladie du péché. Il y a peut-être encore un autre exemple qui est plus frappant. C'est la guérison du paralytique de Capharnaüm. Là, notre Seigneur va montrer le lien qu'il y a entre la guérison corporelle et la guérison spirituelle. Donc, il guérit un paralytique, et à ce moment-là, les pharisiens, ça devait être un jour de sabbat, donc les pharisiens sont offusqués de cela. Et puis, notre Seigneur dit, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi. » Donc pour montrer qu'il avait le pouvoir, parce qu'au départ il dit, qu'est-ce qui est le plus grand à un homme de faire? Dire, lève-toi, marche, ou dire, de remettre les péchés. Et après, la personne dit, bon, le plus dur c'est bien sûr de remettre les péchés. Alors notre Seigneur dit, et afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de remettre les péchés, je te le dis, prends ton grabat et rentre chez toi. Puis la personne, elle se lève, elle prend son grabat et rentre chez elle. Ensuite, alors on pourrait aussi reprendre toute la passion de notre Seigneur, ça c'est très très beau, de voir la miséricorde. Seigneur à l'œuvre dans sa passion. Vous savez par vous-même, par la vie, au moins les personnes qui sont déjà d'un âge, c'est que faire du bien à des gens qui sont sympathiques, ça va, c'est agréable. Mais faire du bien à des gens qui nous ont fait du mal, c'est pas forcément évident. Et plus les gens nous ont fait du mal, plus c'est dur de leur faire du bien. Eh bien, notre Seigneur, au cours de sa passion, alors qu'on vient de le condamner à mort, et dans des souffrances, et qu'il sait à l'avance toutes les souffrances qu'il devra subir, il continue dans sa passion d'aimer les hommes, et d'une façon extraordinaire. Donc il manifeste sa miséricorde en suscitant le repentir de Saint-Pierre, un passage très beau, où Saint-Luc dit, Saint-Luc qui est l'évangéliste de la miséricorde, le Seigneur, se retournant, arrêta son regard sur Pierre. Et Pierre se souvint alors de la prédiction de sa trahison et il pleura amèrement. Donc notre Seigneur a suscité le repentir en Saint-Pierre. Donc alors que notre Seigneur est pris par sa souffrance, eh bien, au lieu de s'enfermer sur lui-même, en général nous quand on souffre, on dit ben, laisse-moi tranquille, toi-même je souffre. Eh bien notre Seigneur, il n'est pas replié sur sa souffrance. Malgré sa souffrance, il reste ouvert aux autres. Donc il a le courage de se retourner vers Saint-Pierre et il cherche non pas à porter un regard. Imaginons le regard de notre Seigneur qui suscite le repentir en Saint-Pierre. En croisant le regard de Saint-Pierre, de notre Seigneur, Saint-Pierre a compris la gravité de son péché, c'est pour ça qu'il a pleuré, mais il a compris en même temps aussi la miséricorde de notre Seigneur. Si le regard de notre Seigneur avait été un regard méprisant, eh bien Saint-Pierre ne s'est pas converti. C'était un regard, vous voyez, qui était chargé à la fois d'une grande tristesse, tristesse de notre Seigneur de voir que Saint-Pierre l'avait renié par trois fois, mais en même temps d'une grande bonté. Et donc en voyant cette bonté, Saint-Pierre a compris que notre Seigneur était prêt à lui pardonner. Et c'est ainsi qu'il s'est souvenu de la prédiction de sa trahison et qu'il a pleuré amèrement. Donc, miséricorde de notre Seigneur dans sa passion. Cette même miséricorde qui va se retrouver encore un peu plus tard. Donc là, le passage que vous lisez, c'est Saint-Luc chapitre 22, versets 61 et 62. Il va se retrouver juste avant d'arriver au sommet du Golgotha, la huitième station du chemin de la croix, où là encore, Saint-Luc nous dit que notre Seigneur s'est retourné dans le but de nous convertir. Notre Seigneur se retourne, ce geste de notre Seigneur qui se retourne, ce mouvement de conversion, en latin, convertere veut dire retourner, c'est-à-dire qu'il se retourne pour que nous revenions vers lui. Donc il se retourne vers Jérusalem une dernière fois, et là, il cherche à éveiller la contrition chez les femmes de Jérusalem. Saint-Luc, chapitre 23, verset 28. Miséricorde encore à l'œuvre jusque sur la croix. Alors que notre Seigneur est sur sa croix, en proie à des souffrances intolérables, crucifié, il n'entend autour de lui que des paroles de haine. Lisez l'évangile, vous verrez par vous-même. Les gens qui sont autour de lui se moquent de lui. Eh bien, la première parole est de nouveau une parole de miséricorde. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint-Luc, chapitre 23, verset 34. Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à ce moment-là, le bon larron, entendant cette parole de notre Seigneur, le larron qui n'est pas encore le bon larron, il se dit, eh bien, s'il est capable de pardonner à ses bourreaux, à tous ces hommes qui sont là autour de lui, qui sont en train de blasphémer, peut-être qu'il sera aussi capable de me pardonner. Alors il lui demande en fait de penser à lui quand il sera dans son royaume, et notre Seigneur, à nouveau, lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Nouvelle parole, c'est Saint-Luc, chapitre 23, verset 43. Donc soyons convaincus à travers tous ces gestes, j'en ai pris simplement quelques-uns, de notre Seigneur, par ses paroles, que notre Seigneur est miséricorde. Il veut vraiment notre cœur, mais il veut aussi notre repentir. On voit, il dit, va. Pas va et continue comme ça, on ira tous au paradis, à la femme adultère. Hein. Il dit va et ne pêche plus. Donc il veut qu'on coupe avec le péché. Voyez. Et Saint-Pierre, eh bien, il provoque en lui miséricorde jusqu'après la résurrection. On voit qu'après la résurrection, il va reprocher, certes, aux apôtres leur incrédulité, ils n'ont pas cru aux femmes qui étaient venues leur annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, mais ensuite, il va se laisser toucher par eux. Et il va manger devant eux pour les convaincre de sa résurrection. Donc on voit encore la miséricorde de notre Seigneur à l'œuvre face aux apôtres qui ont été ingrats, qui l'ont lâchement abandonné le vendredi saint. Ils auraient très bien pu dire, bah, puisqu'ils nous ont agi comme ça, eh bien moi je choisirai 12 autres pour être les 12 apôtres. Ils ne sont pas dignes d'être apôtres. Eh bien non, ça n'était pas son plan divin. Il est resté fidèle au choix premier. Et en même temps, il a d'abord suscité de faire la confession en eux, et puis ensuite, il les a encouragés à repartir d'un bon pied. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous constatez que j'en ai. Et ce disant, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils se refusaient encore à croire et s'étonnaient, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea sous leurs yeux. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures. Saint Luc, chapitre 24, versets 39 à 45. Donc, miséricorde de notre Seigneur à l'œuvre, même encore après sa résurrection. Et miséricorde qui se poursuit aujourd'hui au ciel. Notre Seigneur au ciel continue de manifester sa miséricorde et d'exercer sa miséricorde. Il présente ses plaies aujourd'hui à Dieu son Père pour que Dieu le Père nous fasse miséricorde. Saint Paul le disait aux Hébreux. Le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses. Lui qui a été éprouvé en tout de la même manière que nous, hormis le péché. Donc, vous voyez, notre Seigneur a voulu prendre une nature humaine comme la nôtre pour être capable de compatir à nos faiblesses. Parfois, certains disent, ouais, mais le bon Dieu, il permet cette épreuve pour moi, mais il ne sait pas ce que c'est. Ben si, notre Seigneur a vraiment enduré tous les genres de souffrances. Saint Thomas, on reparle, il développe bien tous les genres de souffrances qu'un homme peut subir et montre comment le Seigneur Jésus-Christ, qui pourrait être l'objet de notre instruction, a enduré tous les genres de souffrances afin de compatir à nos faiblesses. Alors la conséquence qu'en tirait Saint Paul, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin de trouver miséricorde. Alors bien sûr, pour maintenant, pour bénéficier de cette miséricorde, eh bien, il faut que nous rentrions en contact avec le sang divin. Si notre Seigneur est mort pour nous sur la croix, c'est pour nous montrer qu'il nous aime. Il a versé pour nous jusqu'à la dernière goutte de son sang. Donc ce sang a une valeur infinie parce que c'est le sang d'un Dieu. Et maintenant, pour que ce sang de Dieu puisse purifier mon âme, il faut que je puisse rentrer en contact avec ce sang divin. Le sang a en lui-même une valeur infinie, mais il faut que ce sang touche mon âme pour que mon âme soit purifiée en profondeur. Et de quelle manière alors l'âme peut-elle être purifiée par le sang du Christ? Eh bien, à travers les sacrements. Le sang de notre Seigneur touche nos âmes, spécialement par le baptême. D'abord par le baptême, ensuite par le sacrement de pénitence. Chaque fois que Sainte Catherine de Sienne se confessait, elle disait « Je vais au sang de Jésus ». Et puis encore, bien sûr, par la Sainte Eucharistie. En recevant le corps de notre Seigneur, on reçoit aussi son sang. Et son sang, eh bien, purifie petit à petit aussi en profondeur notre âme, par la Sainte Communion. Vous voyez ce que dit encore Saint Paul aux Hébreux, hein ? C'est au prix de son propre sang que le Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le ciel, c'est le Saint des Saints. Nous rachetant pour l'éternité. Son sang purifie nos consciences des œuvres qui causent la mort. Ainsi donc, nous avons l'assurance d'avoir par le sang de Jésus une voie d'accès au sanctuaire. Hébreux chapitre 9, versets 12 à 14, et chapitre 10, verset 19. Donc cette miséricorde de notre Seigneur est très très importante pour notre vie spirituelle, afin de nous faire éviter notamment le piège du découragement. Le démon cherche toujours à nous montrer le péché sous un beau jour pour nous faire tomber dans le péché. Et une fois qu'on est tombé, eh bien, il va nous accabler et noircir encore davantage, je dirais, encore l'état de notre âme en nous faisant croire que le bon Dieu ne pourra jamais nous pardonner d'avoir agi comme on a agi. Et le démon est un menteur. Donc pensons que le découragement n'est jamais de Dieu. Le bon Dieu ne décourage pas, le bon Dieu il encourage. l'état après le plus critique du découragement, ça conduit jusqu'au désespoir. On a vu que c'est le cas de Judas qui a désespéré de son salut. Mais parce qu'il a, il n'a pas suivi le bon Dieu. Si Judas avait su croiser le regard de notre Seigneur comme Saint Pierre a su croiser le regard du Seigneur, Judas se serait converti et notre Seigneur lui aurait pardonné. Et il a cru que son péché était plus grand que la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu est infinie. Elle n'a pas de prix. Parce que le sang, c'est le sang d'un Dieu. Il faut comprendre que le sang de notre Seigneur, c'est le sang d'un Dieu. Donc il a un prix infini. Une seule goutte du sang divin pourrait racheter 1 million de mondes plus coupables que le nôtre. C'est normal. Le sang d'un Dieu a un prix infini. Donc n'écoutons pas le démon qui veut nous faire croire parfois, quand on tombe dans le piège du découragement, que nos péchés sont trop grands, qu'on ne pourra jamais remonter la pente. Maintenant, autre aspect, je vais essayer d'être assez bref, c'est la transcendance de notre Seigneur. Un aspect qui est très important aussi pour la vie spirituelle. Parce que quand on parle de la miséricorde de Dieu, donc on voit Dieu proche de nous. Alors ça nous fait du bien, bien sûr, on a besoin d'entendre. Mais on peut avoir une conception tronquée encore de la vie en voyant Dieu que sous cet aspect de Dieu proche de nous. Dieu reste Dieu, et en tant que Dieu, sous un certain rapport, il est en nous, certes, mais sous un certain rapport, il reste loin de nous. Il est aussi bien important de le comprendre pour ne pas être dérouté dans notre vie de tous les jours par les épreuves, notamment, qui peuvent nous toucher. Déjà, dans l'Ancien Testament, notre Seigneur disait « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. » Isaïe, chapitre 55, verset 8. Donc les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Donc Dieu, lui, il voit les choses sous le regard de l'éternité. Nous, on est prisonniers dans le temps, on passe quelques années ici-bas, on sait très bien que l'éternité existe, mais l'éternité, on n'y est pas encore. Donc on a tendance toujours à juger des choses beaucoup trop en fonction de la vie présente. Dieu, lui, voit les choses en fonction de la vie éternelle, qui est la vraie vie. Et donc, comme on a tendance à grossir les événements de cette vie présente, on voit les choses souvent d'une façon un peu erronée. Donc, essayons de bien réaliser que Dieu, voyant les choses sous le regard de l'éternité, peut nous faire conduire par des chemins qui nous pourront nous dérouter. Donc, le bon Dieu a pour objectif qu'on aille au ciel et qu'on ait au ciel la place qu'il a réservée pour nous. Cette place, on ne la connaît pas encore, mais lui la connaît. Et donc, parce qu'il connaît cette place, il sait par où on doit passer. Mais nous, eh bien, on ne sait pas forcément par où on doit passer. Donc ne soyons pas surpris des épreuves que l'on endure pour pouvoir atteindre cette place qu'il nous a réservée au ciel. Quelques exemples. Exemple des épreuves de la Sainte Famille. Par exemple, il peut paraître, en tout cas aujourd'hui pour nous, étonnant que le bon Dieu n'ait rien dit, soit lui directement ou indirectement par le ministère d'un ange, à Saint Joseph de l'origine miraculeuse de l'enfant Jésus. Donc Saint Joseph a vu la Sainte Vierge enceinte sans savoir d'où venait l'enfant. Ce n'est pas difficile au bon Dieu d'envoyer un ange pour prévenir Saint Joseph, pour le rassurer. Enfin, je pense que humainement, si vous voulez, c'est ce qu'on pense qu'il aurait dû faire. Ce n'est pas ce qu'il a fait, parce que c'est de lui qui avait raison, parce que c'est le bon Dieu. Le bon Dieu a toujours raison. Mais il faut imaginer, vous voyez, que le bon Dieu donc nous conduit par des chemins qui peuvent nous dérouter. Donc Saint Joseph était vraiment perturbé. Il savait que la Sainte Vierge était sainte, mais il la connaissait bien. Mais d'un autre côté, il voyait qu'elle était enceinte. Alors comment concilier les deux? Lui, normalement, la loi l'obligeait de la répudier. Et donc Saint Joseph était juste, donc il voulait obéir à la loi. Mais il dit, mais si je la répudie, je vais la diffamer. Et comment diffamer une femme qui paraît si sainte? Ce n'est pas possible. Donc il était perplexe. Donc grave, grave souci qu'il avait. Si je la renvoie, je la diffame. Si je ne la renvoie pas, je n'obéis pas à la loi. Donc vraiment une situation très 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 délicate qui a duré des semaines, peut-être des mois. Et bien le bon Dieu a permis cela pour sa sanctification. Ensuite, quand notre Seigneur est né, autre épreuve de la Sainte Famille, le manque de place pour accueillir notre Seigneur, donc dans une hôtellerie. que Dieu vienne sur la terre, déjà, eh bien, c'est comme on l'a vu au début de l'instruction, c'est quelque chose d'étonnant, enfin, quelque chose qui dépasse déjà notre imagination. Mais au moins, qu'en venant sur la terre, au moins qu'il vienne dans un palace, quoi. C'est au moins le moins qu'on puisse espérer pour notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez. Eh bien, c'est là encore, c'est pas le plan de Dieu. Il a fallu que Saint Joseph ait trouvé un gîte, il n'a pas trouvé, et finalement, c'est dans une crèche que notre Seigneur est né. Là encore, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Saint Luc, chapitre 2, 27. Un peu plus tard, alors qu'il est en plein sommeil, voilà qu'un ange le réveille en pleine nuit et puis lui demande de partir sur le champ en Égypte pour... eh bien parce qu'on voulait mettre notre Seigneur Jésus-Christ à mort. Le réveiller ainsi en pleine nuit. On peut dire, okay, vous pourrez peut-être plus attendre au moins demain matin pour, à l'aube au moins, en pleine nuit, il ne faut quand même pas exagérer. Eh bien non, là encore, ce n'était pas le plan de Dieu. Et on voit que Saint Joseph ne murmure pas, il n'a pas râlé, vous voyez. Tout de suite, il s'est levé et est parti. Donc un ange apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu ne vas pas tranquillement en Égypte, tu iras là-bas, c'est magnifique. Fuis. C'est vraiment... Ensuite, l'épreuve de la perte de l'enfant Jésus. Bon, nous, on sait après comment ça s'est terminé, si vous voulez, donc pour nous, ça va. Mais sur le moment... Imaginez les mamans qui sont là, si elles perdaient un de leurs enfants, et bien même déjà une journée, enfin même une heure, c'est terrible, et trois jours, alors que l'enfant Jésus en plus, c'est l'enfant modèle, enfin, c'est l'enfant Dieu déjà, donc son enfant unique, hein, l'enfant chéri, et bien l'enfant qui n'a jamais désobéi, l'enfant qui était toujours à l'heure, l'enfant qui était toujours ponctuel, qui était toujours bienveillant, toujours l'enfant parfait. Et à l'âge de 12 ans, il reste au temple sans prévenir ses parents. Angoisse de la Sainte Vierge, angoisse de Saint Joseph. Et là, ce qui montre bien, vous voyez, la réaction, d'ailleurs, ce qu'a pu ressentir et prouver la Sainte Vierge au plus profond de son âme, c'est lorsque l'enfant Jésus, ils ont fini par le retrouver. Réaction de la Sainte Vierge. Mon enfant, pourquoi nous avez-vous fait cela? Voyez, votre père et moi, nous vous cherchions tout angoissés. Angoisse de la Sainte Vierge. Il leur répondit, ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père? De toute façon, de rassurer sa mère. Hein. Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Donc voyez, notre Seigneur est Dieu, et il répond en Dieu. Quand notre Seigneur agit en tant qu'homme, on le comprend bien, mais quand il agit en Dieu, alors on ne comprend plus. Et donc là, il répond à une question en posant une autre question. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Montrant par là qu'il est Dieu. Et alors, à ce moment-là, quand le Seigneur parle en tant que Dieu, on ne comprend pas. Mais eux ne comprirent pas la parole qui venait de leur dire. Donc, si la Sainte Vierge n'a pas toujours compris l'enfant Jésus, vous voyez, ne soyons pas surpris que nous, dans notre vie, il y a peut-être des petits moments où on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Je pense que c'est tout à fait logique. Parce que notre Seigneur est Dieu. Et en tant que Dieu, encore une fois, il y aura des moments où il va vous dérouter. Et moi-même, je vous le dis, mais je serai le premier à me faire avoir. Produit, parce qu'on est homme. Et donc, en tant qu'homme, vous voyez, la Sainte Vierge dit, pourquoi avez-vous fait cela? Donc, face au mystère, et spécialement face au mystère de la croix, c'est pourquoi. Vient toujours le pourquoi. Donc, le fait de poser la question pourquoi, c'est normal. Et seulement, il ne faut pas se révolter. Donc, la Sainte Vierge, nous dit la Sainte Écriture, conservez tout cela dans son cœur. Donc, ça veut dire qu'elle a avalé la couleuvre, et elle a attendu que ça passe. Et après, eh bien, elle a pu voir plus clair. La réaction qu'il faut essayer d'avoir. Et on voit que notre Seigneur lui-même sur la croix, quand il était au paroxysme de la souffrance, il y a encore un pourquoi qui est venu sur les lèvres. Voyez. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Notre Seigneur lui-même, au plus fort de son épreuve, a posé cette question pourquoi. Donc quand il nous arrive une tuile, nécessairement, pourquoi? Le fait de réagir comme ça, c'est normal. Maintenant, il faut apprendre à suspendre son jugement et attendre que ça passe. Et si on réagit comme ça, eh bien, petit à petit, la lumière viendra après. Donc comprenez bien, en voyant uniquement l'attitude de notre Seigneur vis-à-vis de la Sainte Famille, que Dieu nous conduit par des chemins qui souvent nous déroutent. Et la croix est le don que le bon Dieu fait à ses amis. Donc ne soyons pas trop surpris des épreuves qui peuvent nous toucher. Et ça, ça va bien en complément de tout ce que je vous disais sur la miséricorde. Donc, ce sont deux aspects qu'il importe de ne jamais dissocier dans notre vie spirituelle. On pourrait prendre après toute la vie de notre Seigneur pour constater que, à travers les apôtres aussi, il y a souvent eu des quiproquos entre notre Seigneur et les apôtres. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Par exemple, Saint Jean ne comprend pas, Saint Jean-Baptiste, pourquoi notre Seigneur désire être baptisé. Le baptême symbolisait la purification. Que notre Seigneur, qui est Dieu, veuille être purifié, bon, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Alors apparut Jésus qui venait de Galilée vers Jean au Jourdain pour se faire baptiser par lui. Mais Jean résistait et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par vous et vous venez vers moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui se doit. » Alors Jean le laissa faire. Et donc on voit que sur le moment, il est très surpris par cette façon d'agir de notre Seigneur. Ensuite, on va retrouver cela encore dans l'annonce du mystère de la Sainte Eucharistie. Quand notre Seigneur, vous voyez, annonce des mystères, un mystère par définition nous dépasse, et donc là aussi on est un petit peu perdu. Quand notre Seigneur a annoncé le mystère de la Sainte Eucharistie, eh bien, il a demandé à l'homme la docilité. Quand Dieu, vous voyez, nous parle en Dieu, il veut qu'on obéisse. Il veut que la réaction première de l'homme, ça doit être la soumission. La compréhension vient après. C'est d'abord la soumission. Et donc, notre Seigneur annonce qu'il va se donner ainsi à nous en nourriture, en disant qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Et notre Seigneur dit, si vous ne mangez de ce pain, vous n'aurez pas la vie en vous. Alors, à ce moment-là, ben, les gens réfléchissent, ils disent, comment manger la chair d'un homme, manger le sang d'un homme, c'est pas possible. Et beaucoup l'abandonnent. Et à partir de ce moment-là, alors notre Seigneur se tourne vers les disciples et dit, mais et vous alors, est-ce que vous aussi vous allez m'abandonner? Réponse des apôtres de Saint-Pierre, Seigneur, vous avez les paroles de la vie éternelle. Donc vous savez mieux que moi le chemin que je dois prendre pour aller au ciel. Si vous me dites que pour aller au ciel, c'est que je dois vous recevoir dans la Sainte Eucharistie, c'est que c'est le meilleur moyen pour moi pour aller au ciel. C'est vrai que je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par là, mais c'est vous qui avez raison. Et donc je me soumets. Et on voit que quand l'homme ne comprend pas, il repose des questions à notre Seigneur. Et là, vous voyez, notre Seigneur n'a pas dit, mais en fait, je vais vous expliquer, en fait, c'est le miracle de la transsubstantiation. Donc, il va y avoir un changement de substance avec persistance d'accident. Ce seront des petites hosties comme ça, des petites rondes, elles seront blanches. Enfin, ça vous fera pas mal et puis ça sera très bon. Enfin, bon. Il n'a pas voulu, si vous voulez, après il y aura du vin. Enfin bon, après, vous pourrez choisir du vin blanc, du vin rouge. Donc. Il n'a pas donné de détails, si vous voulez, là-dessus. Parce que quand Dieu parle en Dieu, il veut être obéi en Dieu. Et donc dans notre vie, on aura parfois des choix douloureux à faire, des choix difficiles, et en ce moment-là, bah, il faut savoir se soumettre. C'est ce qui apparaît spécialement dans les grandes épreuves. Autre exemple, quand notre Seigneur a annoncé le mystère de la croix. Alors ça, c'est le mystère qui est le plus difficile à avaler pour tout le monde. Hein. Donc le mystère de la croix de notre Seigneur, mais le mystère aussi de la croix dans notre propre vie. Notre Seigneur a annoncé ce mystère en parlant d'une façon très claire. Parfois, notre Seigneur parlait en parabole, donc c'était un langage qui était voilé, pas toujours facile à saisir. Mais il y a eu des moments où il a parlé d'une façon très claire. Et là, justement, le mystère de la croix est un mystère qui est difficile pour l'homme de saisir, et donc il a voulu le dire d'une façon franche et très claire. Prenant les 12 auprès de lui, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir pour le Fils de l'homme tout ce qui a été écrit par les prophètes. Car il sera livré aux païens, sera bafoué et sera outragé, on lui crachera dessus, et après l'avoir flagellé, on le mettra à mort, et le troisième jour, il se lèvera d'entre les morts. » Et eux ne saisirent rien de tout cela, c'était pour eux parole au sens caché, et ils ne comprenaient pas ce qui leur était dit. Vous voyez, quand Dieu nous dit des choses qui sont agréables, on a toujours tendance à dire « encore, encore », et quand c'est des choses qui nous déplaisent, alors là, ben non, je n'ai pas très bien compris. C'est comme ça, c'est une nature qui est ainsi faite. Décalage encore entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes. dans l'attitude à avoir vis-à-vis des païens. Aujourd'hui, on entend des fidèles nous dire « Ouais, mais alors le bon Dieu, pourquoi il n'intervient pas en 2002 ?» Vu tout ce qui se passe, les horreurs, c'est vrai que c'est des horreurs abominables, je suis d'accord avec vous. Hein. Et même, moi non plus, je ne comprends pas forcément pourquoi il n'intervient pas. Mais il faut apprendre à essayer de suspendre notre jugement. Regardons comment ont agi les apôtres au temps de notre Seigneur. Il y avait une ville de Samarie qui ne voulait pas recevoir notre Seigneur. Alors les apôtres, en ce moment-là, qui avaient commencé à faire déjà quelques petits miracles, le Seigneur leur avait donné ce pouvoir, alors ils posent la question à notre Seigneur. Seigneur, voulez-vous que nous disions que le feu du ciel descende et que le feu descende du ciel et les consume ? Petite question, pose à notre Seigneur. Se retournant, il les reprit vertement et ils partirent pour un autre bout. Bon, on a fait de se taire. Ce qui est intéressant encore, vous voyez, c'est le fameux se retournant. Mais se retournant, il est repris vertement. C'est-à-dire qu'il se retourne encore, il se tourne pour les convertir. Parce qu'ils n'ont pas encore vraiment les sentiments qu'ils devraient avoir. À la mort de Lazare, ce nouveau décalage va apparaître. Donc, Lazare était gravement malade. Donc, les apôtres étaient au courant. Et puis notre Seigneur, au lieu de... les apôtres savaient très bien que notre Seigneur aimait beaucoup Lazare, ainsi que Marthe et Marie-Madeleine. Et donc, puisque Marie-Madeleine et Marthe avaient dit, prévenez-le que Lazare est malade, elles étaient persuadées qu'il allait bien tout de suite. Et les apôtres aussi, d'ailleurs. Et notre Seigneur est resté 2 jours sur place. Ça paraît bizarre, il ne soit pas intervenu tout de suite. Alors, à ce moment-là, un peu après, notre Seigneur dit, notre ami Lazare dort. Mais je me mets en route pour le réveiller. Alors ses disciples lui dirent, ah bon, alors s'il dort, il guérira. Et en fait, il dort, mais notre Seigneur parlait du sommeil de la mort. Alors notre Seigneur leur dit en ce moment-là, Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous. Bon, ça paraît, si vous voulez, les paroles de notre Seigneur, bon, après coup, on comprend bien, parce qu'on sait qu'il va aller le ressusciter, mais sur le moment, si vous voulez, ce sont des paroles qui sont difficiles. À comprendre. Alors notre Seigneur parlait tout le temps de son Père. Alors à un moment donné, il y a Philippe qui dit, donc un apôtre Philippe qui dit, Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffit. Donc il parle toujours de son Père. Donc Philippe a au moins compris quelque chose. Le Père, c'est quelqu'un d'important. Donc il dit, est-ce que vous pouvez le voir le Père, s'il vous plaît? Alors notre Seigneur répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Philippe, qui me voit, voit aussi le Père? Comment dis-tu? Montrez-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc on voit qu'il y avait encore ce décalage. Donc Philippe avait une interprétation du Père, mais une interprétation trop humaine, trop sensible. Voyez. Voilà, on va peut-être arrêter par là.